Vlad Alexandrescu, vous êtes le ministre roumain de la Culture, en visite à Rome pour 2 jours. Votre parcours est surprenant. Vous avez d'abord un papa archéologue, une maman historienne de l'art. Est-ce que ça a été important dans votre parcours ?
Oui, j'ai grandi et j'ai été éduqué dans cette ambiance de l'amour pour le patrimoine, pour l'histoire, pour le monde ancien. Et j'ai appris à aimer les choses antiques qui renouent avec la tradition. Tout un monde qui aujourd'hui peut paraître enfoui, mais qui en fait n'arrête pas de germer dans les nouvelles traditions, dans la conscience des gens, dans les formes nouvelles de l'art.
Est-ce que votre vie familiale, vos premières années ont été marquées par des faits qui ont ensuite eu une conséquence sur votre parcours?
Mais oui, je me rappelle par exemple dans mon enfance et dans mon adolescence, les mois que je passais avec mon père à Istria, qui est une colonie grecque, c'est une colonie grecque sur la mer Noire, et où mon père faisait des fouilles archéologiques et je l'accompagnais pendant des mois. Et j'assistais à des événements extrêmement spectaculaires, mais un peu cachés par rapport à tout le monde, n'est-ce pas ? Des découvertes importantes, tout ce côté mystérieux de l'archéologie auquel beaucoup de gens rêvent parfois et que j'avais l'occasion de découvrir un peu au moment où il se faisait. Et ça m'est resté dans la mémoire, aussi bien que les longues lectures que je faisais à l'époque dans ces
Par
vacances.
Exemple.
Ben, c'était des grands textes, c'était Dostoïevski, c'était Tolstoï, c'était Flaubert, c'était Blaise Pascal que j'ai beaucoup étudié par la suite quand j'étais étudiant. C'était un peu une ambiance qui était pétrie de christianisme oriental, de la mythologie grecque, de l'Antiquité et aussi d'une certaine conscience humaine, des familles qui avaient une certaine conscience de la culture, un certain niveau en fait dans le maintien des valeurs en Roumanie à l'époque. Et c'était une époque difficile parce que c'était l'époque du communisme où le régime essayait de niveler d'une certaine façon et par le bas toujours les consciences, la culture et les valeurs.
Alors, vous avez cité Blaise Pascal. Ouais. C'est l'objet de l'un de vos livres, Le paradoxe chez Blaise Pascal. Pourquoi cet auteur ?
J'ai toujours essayé d'interroger Pascal d'une autre façon, qui se situe elle aussi dans la tradition. Je pense par exemple aux essais de Miguel de Unamuno sur Pascal ou de Léon Chestov aussi, qui a écrit des textes saisissants, qui ont essayé de voir dans Pascal un penseur de la foi qui posait la question un peu d'une autre façon, un peu comme une réforme de la spiritualité, comme une espèce de nouvelle conscience de la foi, une nouvelle réception de la foi qui se dégageait dans cet auteur. Effectivement, j'ai fait une thèse d'abord sur Pascal à Paris.
Alors justement, si vous deviez nous donner envie d'étudier Blaise Pascal et ce paradoxe, en quelques mots, qu'est-ce que vous nous diriez ?
Je partirais tout simplement du mystère de Jésus, qui est l'un des plus grands textes mystiques de Pascal, n'est-ce pas, qui nous propose de penser que Jésus est en agonie jusqu'à la fin du monde et qu'il ne faut pas dormir pendant ce temps-là. Et dans ce dialogue, en fait, entre la conscience de l'homme qui cherche Dieu et la voix de Jésus qui lui répond et qui lui dit « Tu ne me chercherais pas si tu ne m'avais pas déjà trouvé ». Et je crois que là se situe en fait le cœur de la réflexion pascalienne qui est prise d'une certaine façon entre un certain scepticisme qui était de mode, qui était à la mode au XVIIe siècle, qui était un peu l'horizon des gens du commun, et un appel de la foi qui était bien plus profond et qui tenait Pascal en quelque sorte par l'intérieur, par les entrailles, et qui ne le laissait pas en fait redevenir le mondain qu'il avait été durant une certaine époque de sa vie. Je crois que dans cet appel, il y a quelque chose de très profond et de très vivant encore aujourd'hui. Mais il y a aussi d'autres thèmes qui sont, je crois, très, très importants lorsqu'on parle de Pascal. Ce refuge, en fait, qu'il trouve dans la christologie, dans la conception d'un Christ qui est à la fois homme et Dieu, qui a à la fois deux volontés, mais qui sont confondues dans une seule. Et il y a, je pense, toujours une pensée de la dualité, une pensée du paradoxe, en fait, qui forme le cœur, le noyau de sa réflexion. Et c'est sur cela que j'ai essayé d'écrire mon livre, Le paradoxe chez Pascal.
Monsieur le ministre, on peut dire que Blaise Pascal, ça fait partie un peu de votre un compagnonnage au quotidien, un compagnonnage spirituel qui vous aide. Et puis dans votre parcours, il y a eu un autre compagnonnage, celui-ci bien vivant, le secrétaire du patriarche Athénagoras,
André Scrima.
Est-ce que ça a été pour vous aussi une personnalité spirituelle qui vous ont aidé?
Oui, c'était un père spirituel. Père Scrima, je l'ai connu à Bucarest lorsqu'il a décidé de revenir au pays. Après quelques 40 ans passés à l'étranger, dans différentes résidences, dans différents pays, il a été abbé dans un monastère au Liban. Il a été professeur à Istina, à Paris, et à l'école du Solchoir. Il a été aussi parfois conseiller au Texas, aux États-Unis, donc une carrière de penseur et de théologien nomade un peu, mais qui s'est toujours trouvé dans des endroits déterminants, à des moments déterminants, comme par exemple le Concile Vatican II, où il a été pratiquement le porte-parole de l'orthodoxie. Et je crois que nous ne pouvons mesurer l'importance de Vatican II qu'à la lumière de la déclaration du pape François à Cuba, n'est-ce pas, qui a secoué toute l'orthodoxie, je crois. Je pense que ça a été un appel très fort. Tout le travail du père Scrima, justement, qui a été de faire connaître l'orthodoxie ici et de montrer ce que l'orthodoxie a de bien vivant et de bien important pour l'Église chrétienne, et de cette façon remis en valeur. Alors, c'était un père spirituel. Je l'ai accompagné pendant 10 ans. C'était les 10 dernières années de sa vie jusqu'à sa mort en 2001, qui était une mort tragique et tout à fait soudaine. C'était vraiment une période extrêmement riche du point de vue spirituel pour moi. J'étais déjà chargé de cours à l'Université de Bucarest. J'avais mes étudiants. J'avais terminé, bien sûr, mon doctorat. Et c'était une époque de parachèvement, en fait, de ma formation.
Quand vous pensez à lui, quelles sont les lumières qu'il vous donne encore?
Ben, c'était que Pesquima était quelqu'un de très libre dans sa réflexion et dans les façons dont il entamait les relations avec les gens. Et je me sentais en pleine liberté, en pleine confiance avec lui. C'est difficile de dire quel était exactement le rapport. C'était un rapport, évidemment, de filiation spirituelle. Mais il n'était pas codifié ou, disons, mis dans un carcan déterminé. C'était ça, en fait, qui... Il y avait des révoltes, il y avait des admirations, il y avait une certaine dépendance intellectuelle à un certain moment, et une certaine vision qui était surtout une vision pneumatologique, je dois dire, qui était toujours à la lumière de l'Esprit Saint, qu'il invoquait souvent. Parce qu'il disait toujours que Jésus est mort sur la croix pour donner son esprit à l'humanité. Certains mots du grec, certains versets de l'évangile, qui se traduisent d'ailleurs en roumain par des expressions extrêmement fortes, où l'évangile dit « Dieu a donné son esprit, il a rendu son esprit ». En fait, cette reddition de l'esprit est un don de l'esprit pour l'humanité.
Alors, monsieur le ministre, vous venez d'être nommé ministre de la Culture pour la Roumanie. Pour terminer, quel est le fil rouge de cette première partie de votre vie?
Je crois que c'est une certaine conscience sur la modernité européenne qui commence certainement au XVIe siècle et qui n'est pas encore finie, parce que, à mon avis, ce que nous vivons actuellement, c'est toujours sous le signe de cette première modernité, qui est une façon de concevoir le nouveau, un accueil du nouveau. Je crois que l'accueil du nouveau est une vertu chrétienne, parce que c'est ça qu'être chrétien, c'est savoir accueillir le nouveau, le recevoir dans son cœur. C'est pas toujours facile. Je crois que pour bien accueillir le nouveau, il faut comprendre l'ancien, en quelque sorte. Il faut comprendre les traditions. Il faut voir ce qui était nouveau à l'époque de nos pères, de nos grands-pères, à l'époque, justement, des origines des traditions dont nous sommes, en quelque sorte, l'aboutissement. Et je crois que cet exercice d'accueil du nouveau est un exercice que nous faisons tous les jours, et que moi, j'ai fait tous les jours pendant ce parcours, qui comporte plusieurs phases, mais qui, à chaque fois, accueille le nouveau avec beaucoup d'intérêt. D'enthousiasme.
Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose, monsieur le ministre?
Je crois que le temps est venu, après une si longue absence, que la Roumanie rejoigne en quelque sorte le concert œcuménique, avec peut-être un nouvel esprit, avec cette idée qu'il y a des choses qu'il faut fermer et que nous sommes devant un nouveau début, devant la détermination de tout un peuple, qui est un peuple de croyants, de prier ensemble et de faire des choses en commun.
Merci, monsieur le ministre.
Je vous remercie.